France Musique. Musicopolis. Mai 1812, Venise. Il est probable que le petit théâtre San Moïse, 107 loges seulement, est plein. L'impresario Antonio Cera sait comment remplir les salles. Pour la soirée du 9 mai 1812, il a prévu un acte d'un opéra déjà consacré, Ser Marcantonio de Stefano Pavesi. Un ballet, I Minatori, et la création d'une farsa qu'il a commandée à un jeune compositeur de 20 ans. Ce jeune compositeur s'appelle Gioacchino Rossini. C'est la troisième collaboration de Rossini avec le San Moïse de Venise. Il a déjà donné la Cambiale di Matrimonio en novembre 1810 et il y a quelques mois, en janvier 1812, l'Inganno Felice. Le jeune Rossini a signé un contrat avec Antonio Cera, l'impresario, et il lui doit encore deux petites farces en un acte comme celle-ci. Après avoir travaillé déjà deux fois avec la troupe du San Moïse, Rossini connaît bien tous les instrumentistes et les chanteurs. Il connaît leurs possibilités, leurs limites, leurs qualités. Il sait exactement ce qu'il peut leur demander. En cette soirée du 9 mai 1812 au San Moïse, le jeune maestro est bien sûr au clavier. C'est ainsi qu'il a commencé sa carrière comme maestro al cembalo. C'est bien sûr l'impresario Antonio Cera qui a choisi le livret de la farsa commandé à Rossini, l'échelle de soie. C'est un sujet très à la mode. Un mariage secret contracté par la pupille d'un tuteur qui, lui, voudrait la marier à un autre. Pour le moment, le marié clandestin monte à la fenêtre de sa jeune épouse par une échelle de soie qu'elle accroche tous les soirs à son balcon. Ce sujet du mariage secret a déjà été traité dans un opéra de Paisiello qui a enchanté la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe. Et celui de l'échelle de soie vient d'un petit opéra comique français, musique de Gaveau, sur une pièce de François-Antonin Eugène de Planard, représentée à Paris en 1808. Déjà, cette pièce s'inspirait d'un autre opéra français de la fin des années 60, du XVIIIe, lui-même dérivé d'une pièce anglaise d'après les peintures de William Hogarth. Tout ça pour vous dire à quel point le sujet est connu et à la mode partout en Europe. théâtre San Moïse a peu de moyens et il faut faire avec. Un orchestre avec quelques bois, deux corps et les cordes et une troupe de 6 chanteurs. Une prima donna, un primo uomo de demi-caractère, 2 premiers barytons bouffe, une seconda donna et un second ténor. Autrement dit, chaque chanteur est caractérisé par un emploi qui correspond à une voix et des possibilités techniques. Le livret est choisi en fonction de cette troupe et la musique devra à son tour tenir compte des possibilités de chacun. Julia, la jeune première, est enfin seule. Elle respire. Elle vient de renvoyer de sa chambre son valet Germano, le baryton que nous avons entendu tout à l'heure, mais elle a eu du mal à s'en dépêtrer. Elle parle à présent d'éloigner son bien-aimé. Elle invoque « Dieu, sois propice à notre amour si ton cœur connaît la pitié ». Mais elle ne peut pas être tranquille 5 minutes. Voici qu'entre dans sa chambre sa cousine Lucilla et le valet Germano qui l'invite à descendre au salon à la demande de son tuteur. Cette première scène se termine avec le plein d'énergie. Julia cherche à faire partir sa cousine et son valet et elle a bien du mal. Vous remarquerez que l'opéra est bien le seul lieu où plusieurs personnes peuvent parler en même temps très vite et où on continue, sinon à les comprendre parfaitement, du moins à les distinguer. De la première scène. Voici un peu plus d'un quart d'heure que l'opéra est commencé. C'est surtout le caractère musical qui a été exposé. Une folle énergie qui monte et remonte par paliers successifs. Une œuvre qui pourrait aussi mériter le sous-titre de « Folle journée ». Mais sur l'histoire et sur les personnages, nous ne savons toujours pas grand-chose. À peine que Giulia a un amoureux, que le valet Germano est un peu niais et pot de colle, que la cousine Lucilla est enthousiaste. C'est dans le récitatif qui suit que nous allons en apprendre un peu plus. Giulia ouvre à son bien-aimé Dorville, qui était jusqu'ici enfermé dans un cabinet contigu. Au cours de la conversation, nous comprenons que Giulia a épousé en secret le dit Dorville grâce au consentement d'une bonne tante. Dorville est jaloux parce que Giulia va être courtisée par Blansac, celui que son tuteur lui a choisi pour époux. En attendant, il faut qu'il s'en aille rapidement. Elle lui donne rendez-vous à minuit. Il montera chez elle par l'échelle de soie et restera jusqu'à l'aube. C'est la soprano Maria Cantarelli, la prima donna de la troupe du San Moïse, qui incarne Giulia à la création de l'échelle de soie en 1812. Si l'on en juge par l'écriture vocale de son rôle, on peut imaginer qu'elle avait une technique très complète. On lui trouve aussi bien des phrases très lyriques que de longues vocalises. Et l'ensemble demande vélocité et esprit. Et pas mal d'endurance puisqu'elle chante dans 5 des 8 numéros. Dans ce numéro, comme dans tous les autres de la Scala di Seta, l'échelle de soie, on entend à quel point Rossini soigne tous les petits détails d'instruments, les transitions entre les phrases, et comme il sait partir d'une ligne simple, très legato, et peu à peu l'orner pour lui donner de plus en plus d'énergie. On remarque aussi que le valet Germano, bien qu'il soit un valet, tient sa partie avec brio dans le duo avec sa patronne Giulia. La jeune femme essaye ici d'embobiner le bonhomme pour lui demander un service. Elle voudrait qu'il espionne sa cousine Lucilla pour voir si Blansac, que le tuteur destine à Giulia, n'aurait pas un faible pour la cousine, ce qui arrangerait les affaires de tout le monde. D'où le ton câlin de Giulia que le valet prend pour argent comptant. Il va être déçu, mais qu'importe, le duo repart de plus belle. Avoir, à l'âge de 20 ans, une commande d'une petite farce pour le San Moïse de Venise est une aubaine pour un jeune compositeur comme Rossini. Il vaut bien mieux, évidemment, faire ses armes sur une petite farce en un acte, d'1h30 environ, que sur un opéra en 4 ou 5 actes. Et puis, en dehors des 6 chanteurs et de l'orchestre, les dépenses ne sont pas énormes pour l'impresario. Il n'y a qu'un seul décor, peu de mise en scène et seulement quelques jours de répétition. On espère bien sûr que Rossini avait donné leurs airs assez longtemps avant le début des répétitions aux chanteurs, parce qu'il y a tout de même pas mal de notes à se mettre dans la tête. Mais le jeune maestro n'était pas très disponible. Il n'avait pas nécessairement le loisir de composer très en avance. La première de l'échelle de soie a lieu le 9 mai. Et depuis l'automne précédent, c'est son 4e ouvrage. Il avait donné l'Equivoco Stravagante à Bologne le 26 octobre, puis l'Inganno Felice au San Moïse déjà le 8 janvier, puis Ciro in Babilonia, un drame sacré, à Ferrare le 14 mars. Il n'a donc eu que la moitié de mars et le mois d'avril en entier pour sa nouvelle farce. Il n'y a qu'un seul décor dans l'échelle de soie de Rossini. En revanche, il y a sur la scène des tas d'endroits où se cacher. Des portes qui peuvent rester entrouvertes, des tables sous lesquelles s'accroupir, des éléments de mobilier qui permettent de se dissimuler. Ce morceau est un quatuor, mais deux protagonistes sont cachés et visibles seulement du public. Et comme le fait Rossini dans à peu près chaque morceau, s'il y a au début quelques moments de calme et de lyrisme, l'ensemble propose une accélération constante qui mène à une sorte de fièvre exacerbée pour nous laisser à la fin dans un état de tension maximum. Thank you. Dans ce type d'ensemble, celui-ci arrivant juste au milieu de la pièce, les personnages avec leur individualité et leur psychologie finissent par disparaître complètement au profit du mécanisme d'horlogerie musicale et de la création de tensions et d'énergie qui priment sur tout. On constate à quel point le jeune maître Rossini, à 20 ans, sait déjà mener son public où il le désire. Ce que la critique du temps a bien reconnu. Monsieur le maestro Rossini a su, avec sa fantaisie ardente et un art élaboré, concilier en une parfaite harmonie l'amas de motifs, de contretemps, de modulations qui se succèdent tant dans le chant que dans l'énergique partition instrumentale. Le critique évoque également les strettes des pièces concertantes, toujours empreintes de cette touche magique qui transporte le spectateur et stimule les applaudissements. Et encore, plus que tout le reste, le délicieux final, qui surpasse toute autre partie de cet ouvrage. L'article conclut. Lors des trois premières représentations, il fut applaudi chaque soir avec le plus grand élan et à plusieurs reprises pour chacun de ses morceaux. Et une fois la farce terminée, il fut accueilli sur le plateau par une ovation générale, contestée en vain par les misérables tentatives de quelques ennemis qui ne font jamais défaut à l'homme de mérite. Le final de l'échelle de soie de Rossini avec Giuliana Serra en Giulia, Roberto Coviello en Germano, William Matteuzzi d'Orville, Natale De Carolis Blansac, Cecilia Bartoli Lucilla, Oslavio Di Credico Dormont, l'orchestre du Théâtre Communal de Bologne dirigé par Gabriele Ferro, enregistré sur le vif. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Max Dosolme pour les recherches et le site, Guillaume Ledu pour le mixage et Philippe Petit pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.